La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Ici Michel Cloutier, bienvenue à cette émission de La quotidienne. Et je suis cette fois-ci en compagnie, entre autres, de Yannick Patelli de La Vie agricole. Bonjour Yannick.
Bonjour Michel.
Et on a notre collaborateur, évidemment, Michel Saint-Pierre, qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Michel.
Et bien, messieurs, je vous laisse nous présenter notre invité. Le sujet aujourd'hui, ça va être l'industrie porcine, qui fait beaucoup jaser.
Bien, qui fait beaucoup jaser depuis le printemps dernier, essentiellement. On va dire depuis même la fermeture de l'abattoir à Vallée-Jonction. Je pense que c'est de là que tout le monde a un petit peu allumé sur la situation de la crise dans le porc. Nous recevons aujourd'hui Vincent Breton, du Breton Bio. Bonjour, Monsieur Breton.
Bonjour.
On est content de vous avoir parce qu'on a quelqu'un de l'industrie, en fait, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Nous, on essaie de comprendre depuis quelques mois. On a appris au printemps dernier qu'on avait trop de cochons. On se demandait ce qu'on allait faire, comment on allait faire pour les abattre quand l'abattoir de Vallée-Jonction a fermé. Dans les derniers temps, que ce soit dans la terre de chez nous, que ce soit dans des écrits que Yann Turmin, un de nos collaborateurs, a écrit aussi, on nous a dit on manque de cochons. Donc, on a un peu de mal à comprendre la situation, mais c'est surtout, moi, j'ai suivi vos interventions sur Facebook, sur Twitter, où vous êtes positionné un peu comme le leader du défenseur, en fait, des producteurs indépendants. Alors là, on va parler de votre compagnie, on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi c'est vous le défenseur des producteurs indépendants. En fait, je dirais que vous êtes le deuxième, parce que finalement, j'ai rencontré Cécilien Berthiaume au printemps dernier, qui lui aussi était pas mal parti sur la défense des producteurs indépendants. Mais on va essayer de parler aussi de comment ça se passe dans le système, où vous vous situez. Et Michel Saint-Pierre, évidemment, qui est avec nous, qui co-anime souvent l'émission avec nous, lui, il a été sous-ministre, mais il était aussi, en quittant sa vie publique, il était auteur d'un rapport où il était beaucoup question de cette fameuse ASRA, l'assurance de stabilisation des revenus. Et Michel n'était pas le plus tendre envers l'ASRA. Donc, je pense que la discussion peut être intéressante aujourd'hui. Alors, mais dans un premier temps, peut-être nous dire, c'est quoi du Breton, du Breton bio essentiellement? C'est quoi votre compagnie, en fait? Ouais,
aujourd'hui, du Breton, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était... l'entreprise a débuté en 1944 là, avec mon grand-père. C'est mon père, surtout, qui a effectué la croissance au cours des années... je dirais 70, 80, 90. Donc, du Breton, c'est une entreprise encore qui est familiale, le siège social à Saint-Bernard dans la Beauce. Ce qui nous caractérise là dans le secteur du porc, c'est que maintenant, depuis 2019, du Breton ne fait que mettre en marché des produits qui sont nichés. On ne fait plus de porc de commodité. Nos principales catégories de produits sont bien sûr le fameux porc bio, comme je l'appelle, ensuite le porc certifié bien-être animal et également, on fait dans la production de porc sans antibiotiques. On a une usine aux États-Unis. On a deux usines de transformation au Québec là, et une troisième au Québec là, qui fait, l'abattage et la transformation du porc à l'état frais.
Alors, pour situer les gens dans un premier temps, avant de rentrer en plus dans le sujet en tant que tel, je sais que Michel, il n'aime pas le terme intégrateur, parce qu'il me dit souvent le mot intégrateur, c'est un mot un peu négatif, hein, tu me dis souvent, mais il reste que dans l'esprit de beaucoup de consommateurs, quand ils lisent un peu sur l'agriculture, qu'il y a les indépendants, puis il y a les intégrateurs. Puis, est-ce qu'on pourrait dire que du Breton, qu'on a perçu comme un intégrateur pendant des années, parce que vous étiez dans toute la chaîne alimentaire, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus un indépendant parce que vous êtes en dehors du système de l'ASRA?
Je dirais qu'il y a eu beaucoup de consolidation dans l'industrie. Hein. Donc, on qualifiait l'industrie comme ça avant, mais maintenant, avec Solio et Aliomel qui contrôlent à peu près 80% du marché, la structure de l'industrie a beaucoup changé. Je vous dirais que nous, on n'a pas une stratégie d'intégration, même si on fait de la production, même si on produit nos aliments, mais on n'a pas spécifiquement une stratégie d'intégration. On a une stratégie vraiment de nicher nos produits. Notre mission, d'ailleurs, le dit, hein, on est le contact entre la ferme et le consommateur qui souhaite obtenir des produits qui sont en respect de l'environnement, en respect de la production certifiée bien-être animal et de ce type de production-là. Donc, on se voit comme un maillon de la chaîne. Dans certains cas, la loi nous force à intégrer ou les règlements agricoles nous forcent à faire de l'intégration de production pour arriver à notre fin. Mais en soi, on en jasait tantôt, mais l'intégration, c'est un modèle économique qui n'est pas nécessairement négatif et qui peut être positif puis qui peut amener de la valeur ajoutée.
Alors, on va parler, Michel, tout à l'heure du système d'intégration et surtout de la problématique aujourd'hui du porc. Peut-être pour nous faire un petit historique, parce que tu as été présent, en fait, dans les années 80, quand justement l'ASRA s'est transformée. Mais à l'origine, quand on lit dans les mémoires de Jean Garon, on nous parle toujours de la fameuse ferme familiale avec le plafond de 100 000 $. Il n'y a pas d'ASRA si tu dépasses tant de cochons, 100 000 $. Mm-hmm. Puis après, dans les années 80, il y a un changement de garde, les libéraux arrivent, puis là, on ouvre l'ASRA. À plus, parce qu'on est dans un marché mondialisé?
Mettons, il s'est passé quelques années entre les deux. mettons, 1980, c'est un peu le début de ça. L'ASRA, ça n'existait pas avant, tu vois, c'est en passant, l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Le but était très noble et très bonne, c'est-à-dire que celle de mettre le Québec sur la carte dans certaines productions. On a identifié ces productions-là, il y avait une douzaine de productions, végétales pour certaines, toutes n'y sont plus maintenant, là, mais le porc était une de ces productions-là, pour laquelle, évidemment, on avait un historique de production de porc, mais qui était beaucoup plus artisanal, si on veut. Là. On se rapprochait plus de la production à la maison. Là, bon. Alors, l'ASRA a eu un effet de propulser cette industrie-là. Problème, c'est que c'est la même ASRA 45 ans plus tard.
Mais de quelle façon? C'est en donnant des montants qui couvrent des pertes? C'est quoi le processus exactement?
En sécurisant. L'idée générale de l'ASRA, c'est vous en faites. On établit qu'il y a un coût de production moyen. Il faut que vous soyez un peu meilleur, si autant que possible. Mais si le marché n'est pas là, ou si vous faites un déficit, on compense ça. Okay. Et donc, c'est une assurance revenu agricole dans une production spécifique.
Puis dans ce temps-là, le producteur paye quoi? Un tiers, le gouvernement deux tiers?
Oui, l'idée générale, c'est un tiers, deux tiers. Il y a une prime. Il y a des hauts et des bas. Dans l'histoire, il y a eu aussi des sommes additionnelles qui ont été mises lors de grandes crises, parce qu'il y a eu des périodes de fin des années 90, surtout des longues années difficiles pour lesquelles il y a dû y avoir des argents additionnels injectés. Mais en gros, c'est ça l'idée.
Mais la particularité avec vous, Vincent Breton, c'est que vous me disiez tout à l'heure, depuis 2019, nous, on n'est plus dans l'ASRA. C'est que vous avez fait le choix, vous, parce que on comprend que, pour simplifier aussi pour les auditeurs, parce que on dit souvent qu'on fait des émissions sur le lait. Moi, je fais le parallèle comme ça, je me trompe peut-être, mais on parle du fromage de spécificité, puis on dit ceux qui font des fromages de spécificité, par exemple Louis Cyr de Bergeron, ils payent plus cher leur lait que celui qui va prendre le même lait pourtant, mais pour faire un fromage de commodité, il va le payer pour qu'au final le producteur ait le prix moyen du lait. Mais ça fait en sorte que ceux qui font des produits de spécificité sont un petit peu perdants dans la... Est-ce que c'est le même cas pour le porc? Vous diriez, parce que vous êtes dans le produit de spécificité, le système ne vous classe pas nulle part.
Deux choses peut-être sur ce que vous dites. Un, je ne suis pas un spécialiste du marché du lait ni du fromage, mais il y a une différence importante, c'est que la production de lait et de fromage est sous quota. Mm-hmm. Donc, les producteurs ou les transformateurs sont protégés par une taxe à l'importation de 230, 240, 250, 260%.
Jusqu'à 300.
Ah, jusqu'à 300. T'as trop fort, casse pas. Donc, dans le cas du porc, on est un marché libre. Donc, il faut être compétitif avec les Américains, avec les autres pays, avec les importations. D'ailleurs, les importations...
C'est ce que vous voudriez, en fait, un marché libre aussi.
Oui.
Parce que moi, j'ai retenu un truc dans la préparation. D'ailleurs, vous m'avez dit, on n'élève plus des cochons au Québec, on élève des cotisations.
Oui.
C'est fort.
Oui, pour une raison, c'est que ce qui est arrivé, c'est que le système de l'ASRA, qui était à la base un système de protection du revenu, a été détourné. Et avec la crise des dernières années, okay, tout le monde, tous les joueurs de l'industrie ont été touchés par une inflation importante, par la crise du COVID, par une explosion du coût des grains, par une main-d'œuvre qui n'est pas là, une pénurie de main-d'œuvre, des retards dans l'obtention de main-d'œuvre au niveau des permis avec le fédéral sur les travailleurs étrangers. Toute l'industrie alimentaire, même, je dirais, a été touchée par ça. La différence, c'est qu'on a fait maintenant de l'ASRA un système où... De support à l'industrie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a modifié le système. On a introduit des nouvelles cotisations, une pour la fermeture d'une usine de Limel, une pour le surplus des cochons au lait de tournement, un autre pour ci, un autre pour ça. On introduit et on modifie le modèle, la structure de coût du modèle, on modifie les revenus du modèle avec une nouvelle convention. Et là, ça va être... Au cours des deux dernières ou des deux années qu'on parle, là, ça va être un support, là, sera dans le port de plus d'un demi-milliard.
C'est dire qu'on, dans le fond, on crée une sorte de déficit
artificiel
qui est comme il y a un coût de production. Mais plus tu ajoutes des éléments dans ce coût de production-là, plus tu te retrouves avec un déficit à la base.
Mais est-ce que la problématique vient du fait que, bon, là, c'est un choix politique d'aider l'industrie porcine. Est-ce que la problématique vient du fait que, finalement, l'industrie porcine, aujourd'hui, c'est une entreprise à 90%? Pour ne pas la nommer Solio, puisque vous le dites dans un de vos tweets, vous dites pour cette année, réveil de lendemain de veille difficile, Solio va récolter un demi-milliard sur deux ans.
Oui. Et le problème, c'est qu'il a été laissé pour compte. On se sert d'un programme existant pour aider une industrie qui a des problèmes puis qui a des défis importants avec ce qui s'est passé au niveau économique, au niveau inflationniste, au niveau des coûts d'énergie, au niveau de la disponibilité de main-d'œuvre, et on utilise un programme qui était destiné à autre chose. Donc là, il y a des laissés pour compte. Il y a un producteur, par exemple, qui ne serait pas relié à Dubreton, qui aurait qui aurait une ferme familiale, qui importerait des animaux, par exemple, soit des Maritimes ou de l'Ontario, qui les élèverait et les revendrait sur le marché local. Lui, il n'a pas le droit à l'ASRA, là, selon les règles. Il se trouve à payer des cotisations spéciales de 8, 9, 10, 11, 12 $ pour aider le géant de l'industrie, pour aider une industrie de commodité. Et il y a point de salut pour les éleveurs indépendants dans un système comme celui-là. Il faut ouvrir le marché, il faut aider les producteurs de trouver d'autres façons d'aider une production qu'il faut dynamiser. Actuellement, les règles du système, et là on ne parle pas de l'ASRA, mais ont été les petits gains qu'on a eus au fil des 20 dernières années pour être capable de produire une production spécialisée. Ça a été incroyable. On a dû même déporter, on a dû s'expatrier pour produire des animaux en Ontario ou à l'extérieur parce que les règles ne le permettaient pas, par exemple, d'avoir des ententes directes avec les producteurs. La mise en marché collective pour l'innovation, pour la différenciation, elle a été un boulet au fil des 20 dernières années. Et là, on se retrouve à concentrer l'ensemble des ressources financières dans une production industrielle de masse dont le consommateur ne veut plus, ou en du moins une partie de plus en plus grande des consommateurs se pose des questions. Nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on a fait la demande de sortir de ce système-là, et c'est de dire donner la chance à des entrepreneurs, à des fermes familiales, à des indépendants de prouver qu'ils sont capables de mettre en marché un produit sans l'ensemble de ces boulets-là. On ne dit pas d'arrêter de les aider. On ne dit pas que l'aide n'est pas correcte. On dit qu'actuellement, l'aide est mal dirigée, elle est mal gérée, elle est mal administrée.
Vous avez dit, M. Breton, un mot, commodité. Vous n'êtes pas là. Vous nous faire un peu le portrait d'ensemble. Qu'est-ce qu'on produit comme commodité puis qu'est-ce qu'on produit comme spécifique? Là?
Ouais, le port du Québec, en général, oui, bon, il y a de la publicité encore là. Pour vous donner un exemple, nous, on paye des cotisations au syndicat des éleveurs de port du Québec pour faire de la promotion sur le port du Québec. OK? Durant les 20 dernières années, les cotisations des producteurs bio qu'on représente, qu'on est nous-mêmes en majorité, n'ont jamais participé. Il n'y a jamais eu de promotion.
Il y a eu une promotion pour le porc en général, mais oui. Il n'y a jamais eu de promotion pour dire il y a aussi du porc bio au Québec.
Oui. Ça a jamais, même si on paye des cotisations, il y a une nouvelle ferme de recherche qui vient d'être bâtie. Elle ne peut pas faire de recherche pour le porc bio. Elle n'est pas au standard. La différence entre un porc, puis pour les auditeurs ou pour les gens là, qui sont moins familiers avec l'agriculture, la différence dans le porc entre une production bio et une production de commodité, c'est différentes choses. Premièrement, beaucoup plus d'espace. Je vous dirais avec l'accès extérieur, au moins 3 fois plus d'espace. De l'accès à l'extérieur durant les périodes où c'est viable au Québec, là, 4 à 5 mois par année. Ensuite de ça, c'est une nourriture qui est différente, où il n'y a pas d'antibiotiques, où il n'y a pas d'organisme génétiquement modifié, puis que les grains sont certifiés bio.
Mais avec ce que vous nous dites là, les éleveurs de porc devraient être fiers de porter ce type de produit devant le consommateur?
Il me semble que oui, et c'est ce qu'on réclame. Mais là, maintenant, ça fait 20 ans qu'on réclame ça. On n'a jamais rien eu en 20 ans. Fait que là, on se dit, bon, ben, on a tiré la serviette sur le système. C'est pour ça que je dis souvent, pour les gens qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook, le système est brisé.
Oui, mais je sais, vous utilisez le terme brisé, le système est désuet.
Oui.
Mais on va revenir, on va aller à une pause, je pense, puis on va revenir parce que j'ai des questions à vous poser sur la régie des marchés, sur votre demande qui a été faite le 22 août dernier. J'ai des questions à vous poser sur ce que vous entendez autour de vous, par le ministre, par le MAPAC, par les éleveurs de porc. On vous revient après la pause.
Participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges » et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
La saison 2 de La Vie agricole à MaTV, c'est pour bientôt. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boisvin, la fromagerie Les Ancêtres, la fromagerie La Station, la fromagerie Les Basques, la laiterie Charlevoix et de Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir. Nous voilà de retour à la quotidienne et je vous rappelle aujourd'hui le dossier du porc, c'est le cas de dire, c'est ce qui est sur la table.
Alors oui, Vincent Breton, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. Effectivement, on a fait un peu le tour de la situation de votre compagnie, de la situation du système brisé. D'ailleurs, je reprends un de vos tweets, vous avez dit le système sert aussi à financer une usine fermée, des détournements d'animaux à rabais et plein d'autres patentes. En fait, quand on regarde ça, on dit la situation est... pas très rose. Vous avez quand même de l'espoir encore parce que vous venez de déposer en fait une demande à la Régie des marchés. Je pense que vous avez déposé ça de mémoire le 22 août. Donc vous serez bientôt entendu. Ça se passe comment ? La Régie des marchés, c'est le tribunal administratif agricole. Vous allez là faire vos représentations en disant on veut un marché libre, on veut sortir de ce système. On veut que le système n'entretienne pas le statu quo actuel. Puis là, c'est des juges qui vont vous écouter vous, mais écouter aussi d'autres personnes, parce que d'autres personnes peuvent venir dire le contraire de vous. Là.
Oui. Normalement, la façon dont ça fonctionne, premièrement, notre demande, nous, qu'on a déposée, c'est que les catégories de porc bio et certifiés bien-être animal ne soient plus couverts par la mise à marché collective. C'est la demande qu'on a faite et cette loi-là existe. Ces articles de loi-là existent et sont prévus dans la loi de la mise en marché collective. Quelqu'un pourrait le demander également pour soustraire son entreprise. Donc, c'est pas quelque chose qui est si spécial que ça, puisqu'il est prévu dans la loi. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième chose, c'est sûr qu'on veut sortir d'un système qui nous étouffe et qui ne nous permet pas d'innover. Et en ce moment, et ce qui est récent, avec ce qu'on discutait tout à l'heure dans la façon dont l'aide est administrée pour le secteur du porc, c'est qu'actuellement, nous sommes cotisés, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations spéciales qui ont été mises en place, qui nous sont chargées comme producteurs bio, comme producteurs certifiés bien-être animal et tous les producteurs indépendants. Et on n'a pas de retour et on n'a pas d'aide malgré la difficulté du secteur en fonction de ça. C'est que là, on se trouve à payer.
Mais comme vous dites, on n'a pas de retour, pour qu'on comprenne bien. Normalement, le retour, c'est-à-dire que vous avez une fédération, les éleveurs de porc.
Oui.
C'est eux qui c'est eux qui cotisent, donc c'est eux qui vous retournent.
Oui, en publicité, en recherche, ou de d'autres façons. C'est que maintenant, on cotise pour aider, par exemple, pour une fermeture d'usine, comme vous le disiez, pour aider pour un détournement d'animaux. Et on n'a pas d'affaires là-dedans. Même le producteur indépendant qui ferait sa mise en marché lui-même, là, il y a des entreprises qui ont moins d'envergure que nous, mais qui sont quand même une envergure intéressante au niveau local. Ben, si le système est géré équitablement, ils ont eux aussi à fournir des cotisations et ils ont eux aussi à payer pour ça. C'est ce qui fait pas de sens.
Alors vous, c'est quoi les communications que vous avez mettons, avec les éleveurs de porc? Quand vous appelez les éleveurs de porc du Québec, vous leur dites ben, « c'est ça ma situation » avant d'aller au tribunal.
Bon,
c'est
quoi la réponse? La régie, la façon dont ça fonctionne, c'est que bon, là, bien sûr, on doit embaucher des avocats, faire des représentations, et là, il y aura les parties adverses qu'on ne connaît pas encore. Il y a une conférence de gestion qui va avoir lieu le 22 septembre, donc on va avoir une idée de quelle sera la position des éleveurs de porc. Moi, même encore là, sur les médias sociaux, j'ai réclamé l'appui des producteurs de porc, du syndicat des producteurs, parce que je pense qu'il est urgent de faire quelque chose pour aider les producteurs indépendants qui sont de moins en moins nombreux.
Alors, dans le système agricole, on s'entend qu'il y a aussi un joueur important.
Oui.
C'est le ministre. Il y a un discours, en fait, du ministre quand même depuis, même avant la pandémie, c'est un ministre qui est en place depuis un mandat et presque et demi, qui a toujours été en faveur de la diversité. Il a souvent dit d'ailleurs, en venant ici, en parlant du rapport Pronovo, la diversité en agriculture, l'importance de la spécificité. Je pense qu'on se rappellera que c'est le premier ministre de l'agriculture au Québec qui est allé voir l'Union paysanne en congrès. Donc, il y a un intérêt quand même pour tout ce qui est un peu différent, tout ce qui n'est pas dans le Main Street. Oui. Avez-vous des échanges avec le ministre de la Montagne là-dessus? Oui, on a fait... il dit quoi, lui?
Bon, on a fait des représentations, bien sûr, aux fonctionnaires, puis on a demandé des rencontres également. On a des rencontres, justement, avec le ministère de l'Agriculture. On fait nos représentations. On a témoigné de cette situation-là qui est injuste et qui est catastrophique. Ils connaissent notre position sur ce qu'on pense de l'agriculture, ce qui va arriver. Vraiment, notre... je dirais qu'on essaye aussi de le faire du côté positif, de la façon où du breton, là, cette demande-là, là, c'est pour c'est une exception, dans le fond, qu'on demande. Hein, parce qu'on ne représente pas une grosse part de marché. Puis ce qu'on veut, c'est tracer la voie, innover, donner des options à des producteurs. Nous, on rémunère les producteurs sous coût de production. Là. Mm-hmm. Fait que l'entreprise prend les risques d'augmenter ses coûts, de faire des produits spéciaux que les consommateurs sont friands ou veulent. On a une clientèle en Amérique du Nord et partout dans le monde qui est fantastique pour nous, là, que ce soit les gens des boulettes suédoises de IKEA partout en Amérique du Nord qui utilisent le porc du Breton, que ce soit les gens de Whole Foods, que ce soit la chaîne de fast-food Mexican Grill aux États-Unis. Donc, du Breton, un produit haut de gamme où les animaux sont traités d'une façon différente. Et il y a une clientèle de plus en plus grande pour ce type de produit-là, malgré la situation économique actuellement. T'sais, les gens, la majorité des consommateurs, si tu leur donnes le choix, là, ils veulent plus voir d'animaux élevés dans une cage de 2x7. C'est fini ce temps-là. Il faut que les gens comprennent. Et c'est justement... Et notre position face au ministère, c'est de dire, OK, s'il y a des entrepreneurs qui veulent prendre des risques, qui veulent développer, pourquoi ne pas les aider au lieu de leur nuire?
Est-ce que ça se pourrait, Michel, que ce discours-là, qui, j'en suis à peu près certain, est très, très bien entendu au MAPAC, au cabinet, puisse trouver quand même un barrage? Parce que finalement, de l'autre côté, quand il se retourne, il y a quand même une dette importante qui s'en vient chez un gros acteur. Puis qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse des choix économiques.
Ben, je suis convaincu qu'ils sont sensibles à cette réalité-là. On ne peut pas ne pas l'être. J'ai été dans ces sièges-là. La réponse, c'est pas oui, mais il y a une loi, la loi de la mise en marché. Cette loi-là, bon, comprend un très grand nombre d'articles et peut-être des articles qui permettent cette exception-là que vous demandez. Mais je ne sais pas si le fait d'être sensible à ça va mener à quelque chose du côté de la régie des marchés agricoles.
Bon, une chose est sûre, qu'il soit sensible ou pas, on va le voir, hein, parce que ultimement, ça va être les actions qu'ils vont prendre qui vont parler. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sent le soutien de la population. Les quelques articles ou les quelques tweets ou les quelques, je vous dirais, les quelques interventions qui sont faites, je pense qu'en général, 9 pour 1, les gens n'accepteront pas qu'il y ait un modèle unique au Québec. Ils n'accepteront pas que la production qui est aidée soit... sous un modèle industriel élevé dans des cages, ça va les rattraper.
Mais en même temps, dans l'agriculture du Québec, je comprends que les gens, quand on leur pose la question, ne veulent pas ça, mais dans l'agriculture du Québec, il y a quand même beaucoup de modèles uniques. Ben, le syndicat en premier, mais au-delà de ça, même quand on regarde le fonctionnement des grandes cultures, c'est tout nouveau. C'est maïs-soya, maïs-soya. On commence à parler de rotation de culture.
Je comprends, mais regardez, par exemple, au niveau du bien-être animal. On se retrouve dans une position où le Canada, on va être en position de retard. On a reporté, par exemple, de 2024 à 2029. Est-ce qu'on va encore reporter en 2029? On va faire quoi avec les éleveurs indépendants? Est-ce qu'eux autres vont transférer leur production? Est-ce que les cages de mise bas de 2x7 vont être éliminées ou on va continuer de produire d'une façon que le consommateur n'accepte plus? Et là, avant ça, il y avait quelques joueurs comme du Breton qui en parlaient. Il y avait quelques clients comme Whole Foods qui en parlaient. Maintenant, vous avez des États américains comme la récente proposition d'ose en Californie. Vous avez la question 3 au Massachusetts, qui maintenant oblige les producteurs qui veulent vendre dans ces états-là à éliminer les cages de gestation. Et là, une fois que les cages de gestation seront éliminées, il reste la cage de mise bas. Il va se passer quoi? Moi, je pense que maintenant, le bien-être animal, là, c'est plus une question économique. C'est comme les usines, le travail des enfants. C'est comme les usines à chiots. Les gens n'en veulent plus. Alors là, il faut moderniser l'industrie au Québec. Si les producteurs sont pris à la gorge. Et si tout ce qu'on a fait durant les 20 dernières années, c'est d'aider un modèle unique, l'agriculture au Québec va se retrouver comment et où et dans quelle position? Et c'est là que nous, s'il n'y a rien qui est fait, la production indépendante, aujourd'hui, là, je pense que des éleveurs indépendants, si on exclut les maternités ou tout ça, là, ça allait passer quoi de... Et là, M. Sapin, vous le sauriez plus que vous, vous savez sûrement plus que moi, là, mais si je ne me trompe pas, là, le nombre d'adhérents à l'ASRA était à 2000, 3000...
À l'origine, il était de 3000.
Oui, puis il a baissé au fil des ans. On est rendu à 500. Puis là, quand on parle dans l'industrie des vrais...
Les vrais, c'est 25.
Bon, les vrais indépendants, dans l'industrie, on parle dans le 100, 125 sur 500 adhérents et ça va continuer de baisser.
Ouais.
Tu sais, si on fait rien. Donc, le modèle actuel, il est brisé. Il faut donner l'opportunité, et c'est ce qu'on demande, il faut donner l'opportunité à des entrepreneurs indépendants de mettre en marché leurs produits de façon plus libre, de façon plus, je dirais, libérale, de façon à ce qu'ils puissent adresser les besoins des consommateurs et ne pas être pris dans des règlements qui les étouffent, qui les obligent, dans certains cas même, à s'expatrier pour arriver à servir des marchés.
Je comprends bien. On a, là, comme dans d'autres secteurs, un modèle unique qui a dans le fond, qui a fait son temps, d'une part, parce qu'il a été mis en place à une époque où on n'était pas un très gros joueur, où c'était très... comment on dit, très distribué sur le territoire. Et ça on n'était pas compétitif. Mais ce temps-là est passé. Là. Ce temps-là, on n'est plus à l'époque de 1980, à l'époque où il fallait lancer, mettre une production sur pied. Puis comme on le fait d'ailleurs dans le maïs-grain-soya aussi, c'est la même chose. Là.
Puis une chose, je pense que l'élevage porcin, des fois, a eu une mauvaise réputation dans le passé, puis il y a eu peut-être des torts qui lui ont été attribués, puis on a modifié, on a rendu des règlements, par exemple, environnementaux beaucoup plus sévères que les juridictions à côté. On a augmenté les coûts de production au Québec. Donc, on comprend que si on veut que les éleveurs, si on veut que les producteurs survivent, puis que les entreprises survivent au Québec dans un contexte plus réglementé, ben, il faut trouver une façon de les aider. Est-ce que l'ASRA est le bon système? Je pense qu'avec avec ce qui a été modifié, avec ce qu'on en a fait, nous, la réponse à ça, c'est non. Et il y a des laissés pour compte. Le système, maintenant, il aide un modèle unique et il est structuré de cette manière-là. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de volonté actuellement pour le changer, pour le réformer. Donc, la seule option qu'on en a actuellement ou que nous, on a vu, c'est d'en sortir pour arrêter l'hémorragie, arrêter d'aider. Tu sais, c'est... Je disais, c'est Robin des Bois à l'envers.
Dans quel sens?
Ben, au lieu de prendre aux plus gros, de prendre aux riches pour aider les pauvres, ou les plus petits, on prend des cotisations spéciales, on modifie le programme pour aider le plus gros de l'industrie ou pour aider la production de masse. C'est un non-sens. Et ça, le public va y voir clair. Là. Avec le temps, là, les gens vont comprendre ça. Et la majorité des gens, comme je disais, je prévois un soutien. J'aurais aimé ça avoir le soutien de la Fédération des producteurs de porc, parce qu'eux, ils représentent les éleveurs indépendants. Ils nous représentent également.
Mais est-ce que la situation d'urgence actuelle, parce que c'est comme ça qu'on nous a vendu un petit peu le dossier, en fait, au printemps dernier, situation critique chez Olimel, qui du coup a créé une situation critique chez Solio. Est-ce que tout ça fait en sorte que c'est tellement gros, Olimel et Solio, dans l'agriculture du Québec, que de toute façon, les décideurs n'ont pas d'autre choix que de dire, on continue la marche en avant.
Oui, mais est-ce qu'on veut une entreprise unique dans la transformation du sort au Québec? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Moi, je pense pas que c'est ce que les gens veulent.
Non, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu qui est de cette dimension-là dont tu parles, Yannick, à l'effet que le groupe Solio-Olimel, ça reste quand même une grande entreprise pour laquelle on n'est pas... On veut certainement qu'elle survive. Sauf qu'il y a des moyens aussi. Il y a des moyens d'aider et qui ne sont pas nécessairement par ce détour-là. Là, je fais un peu l'éditorial là, qu'on fait souvent. Là. Mais c'est certainement pas par le détour qu'on fait actuellement ou que le moyen qu'on a utilisé qui est un moyen collectif incluant des entreprises qui se sont donné des spécificités à des coûts élevés.
Oui, mais puis il y a aussi le fait qu'il y a des producteurs qui ont des difficultés aussi, pas juste Solio. Qui ont eu les mêmes défis que Solio. Il y a d'autres joueurs, quelques-uns dans l'industrie, dont du Breton, dont d'autres, qui ont les mêmes défis et les mêmes problèmes qu'a eu Solio. Donc, est-ce qu'on les laisse pour compte? Est-ce qu'on les laisse tomber? Est-ce qu'on dit, bon, eux autres, oui, on va les cotiser? puis pour sauver un modèle qui est à revoir.
Alors, M. Breton, on va suivre de très près en fait, les résultats en fait, après la Régie des marchés, les échanges que vous aurez. Vous nous direz qui est venu vous contredire à la Régie des marchés. On fera une entrevue avec vous dans quelques semaines ou quelques mois. Puis on suivra l'évolution. On verra aussi comment le ministre et le cabinet vont réagir à cette nouvelle position dans l'industrie du port. Merci.
Merci, M. Breton.
Merci.